Il y a dans le livre des Actes, au moment où Paul vient apporter la bonne nouvelle de l'Évangile dans le pays des païens, c'est-à-dire en Grèce, une double curieuse rencontre. L'une, c'est avec Lydie, la marchande de pourpre, qui est bien sympathique, et l'autre, plus mystérieuse et inquiétante, avec une femme qui avait un esprit python. Cela m'a intrigué parce que souvent on voit Paul ou les autres qui chassent des mauvais esprits de chez des personnes possédées, et le texte aurait pu se contenter de cela. Mais pourquoi est-ce que le texte nous précise que cette femme avait un esprit python? Et qu'est-ce que cet esprit python? C'est très difficile de savoir, parce que, en fait, c'est le seul endroit dans toute la Bible, Ancien et Nouveau Testament, où l'on nous parle de ce genre de choses, c'est-à-dire de cet esprit python. Alors, il faut faire un petit rappel pour essayer de comprendre. Et en effet, se dire, rappelez-vous ce que je viens de vous annoncer, cela arrive au moment où Paul arrive, en gros, dans la péninsule de la Grèce. Or, il y avait justement en Grèce une histoire de Python. C'est la légende de Delphes. En effet, vous le savez, j'imagine, il y avait à Delphes un serpent dragon qui terrorisait la ville, et c'est le dieu Apollon qui arrive et qui tue le dragon, qui tue le serpent, et qui libère ainsi Delphes de cette terreur. Et la légende dit que ce serpent dragon, ce serpent mort, a commencé à pourrir sous l'effet du soleil, ce qui se dit en grec Pitein, et que donc on a appelé ce serpent Python, parce que dans sa décomposition, il émanait une sorte d'odeur extrêmement forte, qui avait un effet assez curieux et un peu envoûtant sur ceux qui s'y adonnaient. Et ainsi, le dieu Apollon, qui avait vaincu le méchant Python, est appelé dans la tradition grecque le dieu Pythien, et Apollon va installer là une voyante, assise sur un trépied, devant le gouffre béant d'où sortaient ces émanations curieuses, et cette voyante, qu'on appelait une Pythie, annonçait l'avenir et faisait des oracles. Et d'autre part, cette Pythie avait aussi une autre particularité, c'est qu'elle faisait parler Dieu en faisant comme si ce n'est pas elle qui parlait, mais comme si c'était Apollon lui-même qui le parlait, en utilisant le principe de la ventriloquie, c'est-à-dire qu'elle était ventriloque. Et c'est comme ça que, dans les traductions antiques, souvent le fait d'être pythonien ou d'être pythien était associé au fait d'être ventriloque. Gardez ça dans votre tête parce que ce sera important pour tout à l'heure. Alors justement, vous disais-je, Paul arrive là en Grèce, à Philippe, et il entre dans la culture grecque. Donc la première lecture est très simple. On peut dire que Paul chasse immédiatement une divinité grecque pour y implanter l'évangile. Et certes, je dirais la Pythonis, la femme de l'esprit Python, là disait des choses assez justes. Et c'est là d'ailleurs la grande curiosité de ce texte, c'est que cette femme a agacé Paul, mais en disant quelque chose qui était tout à fait bien. Elle disait « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut et ils vous annoncent la voie du salut. » On ne peut pas faire une meilleure confession de foi. Et donc pourquoi Paul empêche cette femme de crier ainsi cette belle proclamation de l'Évangile? Les commentateurs habituels disent que c'est simplement pour nous montrer que il ne faut pas avoir de compromission avec ceux qui ont des mauvaises pensées, des mauvaises idées. Et que ce n'est pas parce que quelqu'un qui a une théologie ou une pensée, une idéologie fondamentalement délétère, qui à un moment donné dit quelque chose de juste, ce n'est pas une raison pour se compromettre avec eux. Et donc, certes, à ce moment-là, la Pythonis disait quelque chose de juste, mais quand même, son système était effrayant. Prétendre parler au nom du dieu Apollon pour prédire l'avenir, c'est une abomination. Et donc Paul l'a fait taire, et de ce côté-là, il a tout à fait raison. Mais on peut même aller plus loin que cela, en disant certes, Paul se bat là contre une croyance populaire locale pour essayer de retourner vers un pur évangile, mais certains disent que ça va même plus loin, parce que Paul est présenté là comme celui qui tue le Python, c'est-à-dire qui neutralise le Python, comme Apollon avait neutralisé le python qui terrorisait Delphes. Et ainsi, on peut dire que finalement, Paul est présenté là comme une sorte de nouvel Apollon, celui qui vainc le mal et qui est une sorte de divinité plus puissante que les divinités grecques. C'est assez constant dans les Actes des Apôtres, cette façon que quelqu'un a de, je dirais, d'être présenté comme un nouvel emblème d'une religion passée. Paul, là, est présenté comme le nouvel Apollon, qui tue le python. Un peu plus tard, on nous dira que Paul va sur l'aéropage, et que là, à Athènes, et que là, il fait un discours, et qu'il est totalement incompris et rejeté. Les Athéniens disant à Paul, « Nous t'écouterons sur ce sujet une autre fois », c'est-à-dire, « Ça ne nous intéresse pas ». Et les théologiens nous disent que ce n'est pas tellement pour nous montrer un éventuel échec de Paul, mais plutôt qu'en faisant cela, Paul se retrouve exactement dans la même situation que Socrate, qui également avait fait un discours à l'aéropage et avait été rejeté de la même manière, et donc Paul est présenté comme le nouveau Socrate. Et donc Paul est le nouvel Apollon, il est le nouveau Socrate, et cet évangile devient ce qui remplace en quelque sorte les anciennes croyances grecques. Bon, mais tout ça, tout cela c'est très bien, mais ce n'est pas tout. Parce que je ne pense pas qu'on puisse se tirer d'affaire uniquement par rapport à, je dirais, cette espèce de substitution de la pensée grecque, parce que sinon ce texte ne nous dirait à nous pas grand-chose, parce que j'imagine que vous n'êtes pas des adorateurs d'Apollon, ni des pythoniens, donc comment est-ce que ça peut nous parler à nous ? Alors j'ai essayé de chercher si par hasard on ne pouvait pas raccrocher ça à des choses pour nous mieux connues à partir de notre propre Bible. Alors une première piste qui s'est révélée une impasse, c'est que j'ai découvert qu'en fait il y avait un mot hébreu pour dire le serpent qui était péten, et qu'on a les mêmes voyelles, vous savez qu'il n'y avait pas de voyelles en hébreu, et qu'il se pourrait bien que le mot de python vienne de péten en hébreu, qui veut dire le serpent, l'aspic, la vipère, donc en tout cas un animal très négatif, et donc il y a bien des serpents dans la Bible. Mais je ne crois pas qu'il y ait un lien entre ces serpents aspiques de l'Ancien Testament et le python dont on parle là. Je crois plutôt qu'il faut chercher simplement un serpent en général, et que des serpents en général, il y en a dans la Bible. Et ça, c'est plus simple pour commencer. En particulier, le serpent est le symbole même du mal. Vous le savez, dans la tentation de la Genèse, le serpent est le tentateur, celui qui va instiller dans le cœur d'Ève le péché originel qui sera la cause de tous nos problèmes, pourrais-je dire. Et donc le serpent est le symbole du mal. Et on peut dire que comme Jésus a commencé son ministère en luttant contre la tentation de Satan, contre la tentation du mal, c'est les trois tentations du Christ qui ouvrent le ministère de Jésus. Jésus commence son ministère en refusant la puissance de Satan, en refusant la puissance du mal. De même, Paul et Silas, au moment où ils commencent leur ministère en terre grecque, eh bien, ils rejettent aussi l'image même du mal, qui, là, est le serpent Python. Et cela, comme nous dit le texte, guidé par l'Esprit Saint, comme Jésus, guidé par l'Esprit Saint, rejettera aussi les trois tentations de Satan au début de son ministère. Alors ce serpent, il est essentiel, il est même bien connu, puisqu'on le voit même là sur le chrisme qui est au fond du cœur, où on voit le symbole du Christ avec l'alpha et l'oméga, et on voit le serpent au pied de la croix, donc au pied de Jésus, qui est en train d'agoniser, puisqu'il est écrasé par la croix du Christ. Donc Jésus a en quelque sorte été l'espèce d'Apollon qui tue le serpent, qui est le symbole même du mal. Et puis il y a un autre lien, c'est que ce serpent de la Genèse, et ça m'intéresse, quand il séduit Ève, en fait il dit quelque chose qui séduit Ève, qui est tout à fait juste, hein. Il dit, mais vous ne mourrez pas du tout, mais vous aurez la connaissance du bien et du mal si vous mangez le fruit. Et donc le serpent ne ment pas, curieusement. Il dit une sorte de vérité, mais c'est une vérité tronquée. C'est une vérité qui veut inciter Adam et Ève à faire les choses sans tenir compte de Dieu, c'est-à-dire en enlevant un élément essentiel qui est celui de l'attention à l'autre et à Dieu. Et ça montre que une vérité même peut être pervertie suivant l'esprit dans lequel elle est utilisée. Et je dis ça parce que le serpent de la Genèse finalement ne ment pas, enfin il ment par omission, mais ce qu'il dit n'est pas vraiment faux. De même que la pythonisse de Paul dit des choses assez justes, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, ils vous annoncent la voie du salut, alors, rien à dire, c'est un bon catéchisme, hein. Mais cela montre que parfois la vérité peut être fausse lorsqu'il lui manque quelque chose qui est la générosité, l'attention à l'autre et la préoccupation de Dieu. Ou alors lorsque ces paroles sont dites sans générosité, c'est-à-dire pour son propre profit, comme la pythonisse qui faisait commerce de ces paroles. Et finalement, chez la pythonisse, on voit comment la vérité peut être pervertie, ou comment une parole juste peut perdre son pouvoir vitalisant, et comment on peut pervertir un message en lui enlevant l'essentiel. Et l'essentiel, je vous l'ai dit, je crois que c'est tout ce qui n'est pas nécessairement de l'ordre de la vérité brute, mais c'est tout ce qui est de l'ordre de l'humain, de l'humanité, tout ce qui est de l'ordre de la tendresse, de la disponibilité, de la gentillesse, de la simplicité et de la sincérité. Et ça, ce sont toutes ces qualités-là qu'on trouve chez Lydie. Ah, Lydie, justement, Lydie, cette marchande de pourpre, je vous ai dit, il y a là deux personnages dans l'entrée de Paul en Grèce, Lydie et la pythonisse. Cette Lydie, c'est l'opposé exact de la pythonisse. Lydie, elle est formidable, elle est sympathique, elle est chaleureuse, elle se fait baptiser. Et finalement, c'est chez elle que Paul et Silas vont trouver refuge à la fin de l'histoire, et donc ils vont revenir à elle. Et donc l'histoire de Lydie encadre cette histoire terrible de la pythonisse, avec sa confession de foi qui finalement ne va faire que du désordre et va traîner les apôtres dans la prison. Et cette Lydie, bien sympathique, vous disais-je, cette marchande de pourpre, elle est tout le contraire de la pythonisse, parce que elle ne se contente pas de hurler des vérités, de hurler des doctrines, mais cette Lydie, elle croit, tout simplement. Elle croit, elle reçoit le baptême, et c'est chez elle que Paul va ensuite se réfugier. Et donc Lydie, elle est attentive, elle est humble, et elle écoute. Et ça change tout, parce que Lydie, on nous dit qu'elle écoute, alors que la pythonisse, elle n'écoute rien, elle crie. Elle hurle, elle dit « ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, ils annoncent la vérité ». Mais ça montre que ça n'a aucun intérêt, ces gens qui vous proclament des sortes de vérités divines et éternelles, qui vous récitent des catéchismes, c'est pas ça qui est le sens de la vie, c'est pas ça qui transforme une existence, c'est pas d'avoir une juste théologie qui nous fait de nous des êtres nouveaux, mais c'est la gentillesse et la tendresse de Lydie. Et j'aime infiniment cette femme qui est attentive, qui écoute au lieu de parler, cette femme qui donne la vie et cette femme qui accueille et qui est justement qui va changer sa vie. Alors que la pythonisse, elle ne change rien, elle est juste dans la récitation d'un catéchisme. Alors elle récite indéfiniment en boucle une sorte de vérité dogmatiquement juste, mais qui finalement ne donne pas la vie, ne donne que de l'agacement. Et elle assomme par la répétition de ses discours. Et là encore, je vois une autre différence, c'est que la vie de Lydie va être transformée, elle va être changée, sa vie. Alors que la pythonisse, sa vie ne change pas, elle est dans la répétition. Aucun changement chez elle. Elle est dans une sorte de répétition du même, où on reste toujours la même chose. C'est l'image d'une sorte d'intégrisme figé dans lequel il n'y a pas de vie. Et ça, je crois que c'est ça qui a fatigué Paul. C'était qu'elle répétait sans cesse la même chose. Et la répétition, c'est l'absence de vie. La répétition, c'est la mort. Il faut qu'il y ait du neuf, c'est-à-dire du renouvellement de la vie pour soi et pour les siens, et que répéter quelque chose, elle répétait là quelque chose qu'elle a dû entendre, mais finalement ça ne changeait rien en elle, puisqu'elle restait pythonisse. Alors là, c'est aussi très, très mauvais, et Paul a bien fait de la mettre dehors, parce que les gens qui vous récitent des catéchismes appris, mais qui ne changent pas leur vie, il vaut mieux les éloigner, et de très loin, de chez vous. Et ils n'ont rien à voir dans l'Évangile. Elle ne se renouvelle pas, elle est dans la stérilité des discours, et finalement, sa théorie, c'est « faites ce que je dis, mais pas ce que je fais », c'est-à-dire, elle dit « suivez-les », mais elle ne suivait rien du tout, puisqu'elle ne change pas sa vie. Alors ainsi, quelqu'un qui vous proclame des vérités doctrinales sont des gens justes, pénibles, et qui perdent, je crois, ce qu'il peut y avoir d'espoir et de nouveauté de vie dans un discours. Et c'est ça que la pythonisse n'a pas vu. Parce que finalement, cette pythonisse était une, je vous l'ai dit, une voyante, et comme les serviteurs de ces cultes plus ou moins païens, c'était des gens qui donnaient des commandements moraux. Ils disaient, il faut faire ci, il faut croire ça, vous devez agir ou de telle manière. Et donc, c'était des gens qui imposaient des contraintes morales et qui également, comme on le voit, demandaient de l'argent. C'est-à-dire, ils disaient, il faut que vous donniez tant d'argent pour ça, que vous offriez des sacrifices et tout ça. Et comme tous ces oracles païens, mais je crois que justement ça c'est tout le contraire de l'Évangile. C'est que dans l'Évangile, il n'y a pas de contrainte morale. Il y a juste une parole qui transforme le cœur. Et ensuite, eh bien, après on donne ce qu'on veut parce qu'on a le cœur transformé, mais les sacrifices vont de soi, c'est plus une condition d'accéder à quoi que ce soit. Et Lydie, finalement, elle va appeler Paul et Silas à venir demeurer dans sa maison, c'est-à-dire qu'elle accueille cette parole, elle va faire de la place dans sa vie pour accueillir cette parole, et elle va essayer de chercher cette intimité avec cette parole. Au début, d'ailleurs, il y a une chose curieuse dans ce texte aussi, qui est curieux du début à la fin. Lydie, la gentille, dit qu'elle incita fortement Paul à venir chez elle. Certaines traductions disent qu'elle contraignit Paul et Silas à venir chez elle. Ça, c'est assez curieux. C'est-à-dire qu'au début, elle les force, et puis à la fin, Paul et Silas vont d'eux-mêmes naturellement chez Lydie. Et ce passage me semble intéressant aussi. C'est-à-dire que peut-être qu'il faut parfois forcer un peu les choses pour accueillir cette parole qui nous change la vie, et que ce n'est pas évident au début de faire venir cette parole habiter chez soi. Et Lydie va avoir cette force, malgré sa gentillesse et sa tendresse, effectivement de forcer un peu les choses et de dire, cette parole, eh bien je vais la mettre un peu de force dans ma vie. Et ensuite, elle devient naturelle, puisque Paul et Silas y retourneront d'elles-mêmes. Donc vous disais-je, la pythonisse parle et Lydie écoute. La pythonisse assomme et Lydie, elle accueille. Et la pythonisse, elle prédit l'avenir, enfin elle essaye, alors que Lydie, elle vit avec simplicité la présence de Dieu, elle se fiche un peu de l'avenir, mais elle se laisse transformer par elle. La pythonisse ressasse, elle ne change pas, il n'y a pas de dynamique, elle est dans la répétition, dans l'intégrisme, alors que Lydie est dans le changement et dans la nouveauté de vie. Donc ce sont deux destins tout à fait contraires. Et puis il y a aussi autre chose chez ces pythons, dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est que ces pythons sont toujours dans l'Antiquité associés à la ventriloquie. Les ventriloques, c'est-à-dire ceux qui font semblant que c'est Dieu qui parle, alors que c'est eux-mêmes qui parlent. La ventriloquie est la pire des subterfuges, c'est la pire des tromperies pour la Bible. C'est-à-dire quand un homme parle et qu'il arrive par un moyen quelconque d'essayer de faire croire que c'est Dieu lui-même qui parle. Alors ça c'est la pire des choses. Et méfiez-vous des gens qui prétendent parler au nom de Dieu. Alors il n'y a peut-être pas beaucoup de ventriloques chez les pasteurs et les prêtres, mais en même temps, en fait j'en connais beaucoup. De gens qui prétendent se substituer à Dieu pour être capable de dire ce qui est bien et ce qui est mal. de ceux qui prétendent se substituer à Dieu pour dire ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qu'il faut croire ou ne pas croire. Et donc nos églises sont bourrées de ventriloques pitons, c'est-à-dire de gens qui prétendent parler à la place de la divinité et qui même parfois vous disent, Bible en main, ça c'est la vérité, parce que la Bible le dit, la parole de Dieu le dit. Alors, ils choisissent les versets qu'ils veulent, ils choisissent les passages qu'ils veulent, qu'ils interprètent comme ils veulent, mais le nombre d'intégristes pénibles, insupportables, comme ces pitonisses, qui finalement se prennent pour Dieu, se prennent pour des oracles divins, pour condamner les uns ou les autres, et pour essayer de dire ce qu'il faudrait croire ou faire, c'est absolument insupportable. Alors, les dogmatiques qui se prennent pour Dieu, les dogmatiques qui prétendent savoir mieux que Dieu lui-même ce qu'il faudrait croire faire, eh bien, je m'en méfie. Et comme Paul, je préfère les rejeter loin de moi. Et parce que c'est dangereux et mortifère. Et donc la pitonisse, vous disais-je, elle dit des choses, finalement peu importe que ce soit vrai ou pas, ça n'est pas la question. Parce que la juste croyance ne suffit pas. Ce qui compte, je vous l'ai dit, c'est de se laisser transformer par une parole. Et Lydie, alors Lydie, cette femme merveilleuse, en quoi elle croyait? Eh bien, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Peut-être qu'elle n'avait pas une aussi bonne théologie que la pitonisse, mais Lydie, elle a changé sa vie. Et elle s'est laissée toucher par ce message. Et finalement, c'est ça la chose essentielle. Lydie, elle a fait entrer une autre dimension dans son existence qui était celle de cette bonne nouvelle qui change la vie, qui transforme tout. Et c'est elle qui a raison. Donc peu importe qu'elle ait eu bon ou pas bon dans sa leçon de catéchisme, et je dirais la même chose pour vous, peu importe que vous croyez bien comme il faut ou pas, tant que votre foi vous vivifie, tant que vous vous laissez toucher par cette bonne nouvelle de l'Évangile, tant qu'elle vous fait vivre, tant qu'elle vous fait du bien, eh bien gardez votre foi comme ça. Et laissez crier tous les bons apôtres de la bonne doctrine, du dogmatisme et de l'intégrisme. Laissez-les. Je rencontre malheureusement trop de gens dans mon ministère qui ont une foi personnelle et qui s'en sentent coupables. Et qui disent « Ah, je crois sans doute pas assez bien, j'ai sans doute pas assez la foi, je crois pas comme il faut, etc. » Eh bien, arrêtez d'aller voir la pitonisse qui sait tout et allez voir Lydie qui ne sait rien mais qui change sa vie. Et c'est ça le bon exemple, je dirais, de l'antidoctrine, mais de cette réalité fondamentale humaine. L'important, et c'est de savoir si on accueille ou pas une réalité nouvelle dans sa vie. Et là, Lydie, pour moi, est quelque chose d'absolument, une personne absolument merveilleuse, parce que justement, elle est l'anti-intégrisme, mais juste la tendresse de celle qui se laisse transformer par une parole. Et puis, cette femme Python, elle a encore d'autres défauts pour moi. Je crois qu'elle symbolise tout ce que je déteste le plus dans le domaine de la pensée et elle symbolise tous les plus grands dangers de l'espérance, à l'encontre de l'espérance chrétienne. Je vous ai dit son dogmatisme sûrement, sa répétition, son... Bon, et puis il y a autre chose. Revenons-en au Python. La pitié de Delphes, elle prédisait l'avenir. Et ça me touche beaucoup parce que l'avenir est souvent angoissant. Et l'avenir que nous prédisent tous nos spécialistes est souvent extrêmement angoissant. Et la pitié prédisait un avenir en se prenant pour Dieu. C'est-à-dire qu'il disait qu'il avait raison, comme tous nos spécialistes, qui n'arrêtent pas de nous prédire un avenir sombre et toujours sûr d'eux, c'est-à-dire que c'est une sorte de vérité éternelle. Et donc des pitons, eh bien nous sommes entourés de pitons. Entre les démographes qui disent, vous savez, en 2050, nous serons je ne sais pas combien de milliards et nous allons tous mourir de faim, il n'y aura pas assez de quoi manger. Entre ceux qui nous disent que le recul des glaciers fera je ne sais pas quoi, que le trou d'ozone va nous tous nous brûler à mort, que la pollution va entraîner je ne sais quoi, que le réchauffement climatique va faire des guerres mondiales et que le djihadisme va convertir tout le monde à l'islam. Enfin, voilà tous ces pitons. Tous ces gens, tous ces spécialistes qui nous annoncent les pires problèmes à venir. Et ces pitons annoncent ces catastrophes avec certitude, ils savent tout, ils ont la vérité absolue, et ils nous ressassent sans arrêt la même chose, exactement comme cette femme piton. Et ça, c'est le poison de l'existence, c'est le poison de l'âme. Et il faut Rejetez ces pitons, comme Paul. Ne les laissez pas vous envenimer. Ne vous laissez pas prendre par ces pitons qui vous annoncent des avenirs sombres. Ne les écoutez pas, ce ne sont que des médisants et ce ne sont que des paroles de putréfaction. Et ce sont des oiseaux de malheur. Et ça, le problème, c'est que nous sommes, nous, aujourd'hui, alors il n'y a plus une jolie dame assise sur un trépied au pied d'un gouffre dans un hôtel à Delphes, mais en fait, toutes nos pitonisses, elles sont dans chacun de vos postes de télévision, dans chacune de vos postes de radio, dans chacun de vos journaux que vous achetez sans arrêt. Et nous tous, nous nous nourrissons matin, midi et soir de paroles négatives. Et matin, midi et soir, on se nourrit d'horreurs, finalement, de massacres, d'attentats, de morts, d'accidents de voiture, d'accidents de car, d'avalanches, de destruction, d'émeutes, de guerres, de djihadisme. Et finalement, nous nous laissons, nous, sans arrêt, nourrir d'esprit python en permanence. Et ça, c'est extrêmement grave. Parce qu'en fait, ce que nous écoutons, ce que nous lisons, ce que nous voyons, eh bien, ça rentre en nous. Et finalement, nous nous nourrissons sans arrêt de paroles négatives qui ne peuvent avoir que des effets délétères sur nous, c'est-à-dire qui ne peuvent que nous abattre et nous rendre totalement impuissants et à la disposition du premier venu qui va essayer de nous récupérer en profitant de notre faiblesse. Alors moi, je vous dis, comme Paul, les esprits pitons, chassez-les loin de vous. Alors, écoutez la radio ou la télévision si vous voulez, mais je dirais comme une prescription médicale et vitale, passez dans la journée autant de temps à lire l'Évangile que vous le passez à vous confronter à ces mauvaises nouvelles de la télévision, de la radio et du journal. Parce qu'il faut un antidote. Et de toute façon, tous les journaux et les télévisions ne donnent que des nouvelles négatives, à 99%. Et donc, il faut contrebalancer. Alors, chaque fois que vous regardez 20 minutes les informations à la télévision, vous lirez 20 minutes d'Évangile. Sinon, vous allez crever comme des pitons et vous allez vous décomposer comme le piton de Delphes, tué par Apollon. Et ça, c'est une chose essentielle. Et à l'inverse de cela, il y a Lydie. Et Lydie, au bol, s'en fiche de tout ça. Elle vit avec simplicité l'aujourd'hui de la présence de Dieu. Lydie, elle est formidable parce qu'elle n'écoute pas les pitons. Oui, demain, ce sera, écoutez, on verra. On verra. Ça n'a aucune importance. Lydie, elle a compris qu'il y avait l'espérance de la présence de Dieu et qu'avec Dieu, tout est possible et qu'il a la confiance. Et finalement, même tous ces médias, tiens, qui nous informent, le parallèle avec les pitons est peut-être plus juste encore qu'on ne pourrait le croire. Parce que je lis dans les Actes qu'en fait, cette femme piton, elle était au service de gens qui simplement tentaient de gagner de l'argent sur son dos. Eh bien, je vais vous révéler une chose. Tous ces gens qui vous font les médias, qui vous informent, est-ce qu'ils ont une sorte de volonté généreuse de vous informer? Réponse, non. Leur seule volonté, c'est de gagner de l'argent. C'est-à-dire que le seul but des chaînes d'information, le seul but d'un journal d'information, c'est son chiffre d'affaires et c'est de gagner de l'argent. Et un patron de presse m'a dit récemment qu'il le savait très bien, que la une d'un magazine, si c'est une une négative, ils vendent 70% de plus que si c'est une une positive. Et donc, comme le but c'est de gagner de l'argent, eh bien allons-y, on va vous mettre des attentats, des guerres, des morts, des enfants qui crèvent dans les ruisseaux et tout ça. Ça fait vendre, c'est merveilleux, ça fait gagner de l'argent. C'est exactement comme l'histoire de la pitonisse. C'est-à-dire que plus les nouvelles sont mauvaises et plus elles font gagner de l'argent. Alors ces maîtres de la pitonisse sont extrêmement dangereux. Méfiez-vous de cela. Ce n'est pas eux qui doivent dicter votre pensée, votre façon de vous tourner vers le monde. Et donc arrêtez, économisez les abonnements à tous ces journaux et lisez l'Évangile. Comme Lydie, vous allez chez vous, vous accueillez Paul dans votre vie, vous accueillez le Christ dans votre vie et pour le reste, vous verrez bien. Ça n'a aucune importance. Peut-être d'ailleurs même qu'ils ont raison, ces prédicateurs, comme la pitonisse avait raison en fait. Mais ils m'assomment. J'en ai assez, je ferme le bouton de la radio, je n'écoute plus. Ça ne m'intéresse pas. Parce qu'en effet, ces gens-là cherchent à gagner de l'argent, vous disais-je. Alors, l'argent, je ne sais pas si c'est le problème en fait. Parce que Lydie, je reviens à Lydie, on nous dit qu'elle était marchande de pourpre. Or, la pourpre était un produit extrêmement cher. Extrêmement cher. Seuls les empereurs et les très très grands rois pouvaient s'offrir de la pourpre. Et donc Lydie, elle n'était pas, c'était pas une pauvresse. Hein. Lydie, c'était, je dirais, elle faisait du, en fait, elle était dans le commerce de luxe. Elle travaillait chez Hermès ou Vuitton. Enfin, c'était pas rien du tout. Elle n'était pas pauvre. Elle n'habitait pas dans une hutte. Et c'est pas dans un galta que Paul et Silas sont allés se réfugier. Et donc c'est pas le problème, l'argent. Le problème, c'est la manière avec laquelle on le gagne. Et que les Pythoniens gagnaient de l'argent sur la crédulité des gens. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Ils jouaient sur l'angoisse des gens et ils donnaient des pseudo-informations concernant l'avenir. Et ces gens-là, ils n'aiment pas les chrétiens. Parce que les chrétiens, ils sont libres et ils n'ont pas peur de l'avenir. Et du coup, on nous dit qu'ils enferment Paul et Silas. Mais on verra qu'on ne peut pas enfermer la liberté chrétienne. La liberté du chrétien, elle est invulnérable. Et elle ne peut être enfermée dans rien, dans aucun discours négatif ou déprimant. La liberté du chrétien, rien ne peut l'enfermer dans quoi que ce soit. Même le monde matériel ne peut pas enfermer la liberté du chrétien ni la contraindre. Le texte nous dit que Paul et Silas, enfermés, ils prient et que cette prière ébranle les fondements et que ça ouvre les portes. Ça, c'est merveilleux. Voilà plus utile que de se soumettre aux pythoniens des informations. Priez et votre prière va vous ouvrir des portes de lumière, de joie et de liberté. Les murs sont ébranlés, les portes s'ouvrent parce qu'il n'y a aucun déterminisme qui puisse abattre un chrétien qui prie. Parce que la prière, comme cette prière de Paul et de Silas, c'est une porte ouverte vers la vie, vers l'espérance, vers la paix, vers l'harmonie, une porte ouverte que nul ne peut fermer. C'est un ancrage que rien ne peut arracher, c'est un sens qu'aucune parole ne peut rendre absurde. Alors n'ayez donc pas peur, n'écoutez pas les oiseaux de malheur, les pythonistes, les ventriloques, les prévisionnistes, les démographes, les climatologues ou autres spécialistes qui parlent comme si c'était Dieu eux-mêmes qui parlait, comme s'ils étaient des oracles, ne les écoutez pas. Certes, bon, comportez-vous de façon raisonnable et responsable dans ce monde, mais sans peur, c'est-à-dire n'ayez pas peur, parce que vous avez déjà été libérés. Vous avez été libérés pour vivre libre et heureux, quelles que soient les circonstances matériel, quel que soit l'avenir, quoi qu'il arrive de ce monde, notre avenir, il est toujours beau et bon. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a un Dieu qui nous aime et qui nous invite à aimer. Et ça, c'est une vraie parole de vie. Aucune muraille ne peut nous séparer de l'amour de Dieu et aucune circonstance ne peut nous empêcher d'avoir quelqu'un à aimer à côté de nous. Et donc, n'ayez pas peur. Laissez la pythonisse hurler sur le chemin des autres et, comme Lydie, avec simplicité, recevez le baptême d'une vie nouvelle et accueillez chez vous Paul et Silas, accueillez cette parole de vie chez vous et sur le bord de la rivière, faites votre boulot, vendez votre pourpre, faites votre linge, ce que vous voulez, puisez l'eau. Et puis simplement, quand vous avez cette parole de la bonne nouvelle de l'Évangile prêchée par Paul, par les apôtres, dans votre intérieur, dans votre maison, eh bien, plus aucun discours de Python ne peut vous atteindre. Vous êtes simplement dans la tendresse, dans la vie, dans l'espérance, la joie et la paix. Amen.